Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, sécheresse, incendie, ces mots ont rythmé l'été des Européens, montré aussi la rapidité du réchauffement climatique et notre fragilité. En Italie, le manque d'eau était tel que le gouvernement a déclaré début juillet l'état d'urgence dans plusieurs régions du centre et du nord du pays. Une sécheresse historique qui a mis à genoux le nord de la botte, fournisseur de près de la moitié de la production agricole. Un secteur qui pourtant tente ces dernières années de s'adapter. Le reportage dans le nord de l'Italie de Pauline Glaise.
Une grande pompe transvase de l'eau d'un canal à un autre. Stefano Calderoni, agriculteur et président du syndicat d'irrigation de Ferrare, présente le système de recyclage de l'eau mis en place cet été.
La pompe récupère les eaux usées des champs voisins, une eau qui sans cela finirait dans la mer. Nous, on la prélève, on la remet dans le réseau dans lequel les agriculteurs peuvent puiser pour irriguer. Et nous avons demandé des fonds du plan national de relance pour rendre ces outils pérennes.
Ce recyclage de l'eau a permis au syndicat de prélever chaque jour 800 millions de litres d'eau en moins dans le pot. Le fleuve, qui quelques kilomètres plus loin, s'est rétréci à cause du manque de précipitations.
Ce que l'on voit en face de nous, c'est une énorme plage de sable. Dans beaucoup de ports de plaisance, comme celui que l'on a devant nous, des bateaux touchent le fond et ne peuvent plus sortir des ports.
Stefano Calderoni appelle donc à réaménager le fleuve pour garantir un flux plus régulier.
La mort lente du fleuve était largement prévisible. Les décideurs politiques auraient dû intervenir. Nous avons des infrastructures d'irrigation qui remontent au temps de Cavour, c'est-à-dire au 19e siècle. Donc nous, on propose de créer tout au long des 650 km du Pô des petits bassins de stockage. On peut réaliser des petits réservoirs sans faire de grands barrages qui défigureraient les paysages et modifieraient l'environnement.
Maintenir un niveau d'eau suffisant dans le fleuve présente un autre intérêt, éviter les remontées salines. Le Pô ayant perdu de sa force, l'eau de mer l'a prise à revers jusqu'à 40 km de l'embouchure en juillet. Près de la côte, une unité de dessalement a été acheminée pour que les habitants aient de l'eau potable, un dispositif trop cher pour l'agriculture. Rodolfo Laurenti, ingénieur et directeur adjoint du syndicat d'irrigation du Delta du Pô, détaille carte à l'appui les efforts déployés pour tenter de sauver les cultures.
Les lignes rouges sur la carte, ce sont les canaux d'irrigation. Ils devraient être alimentés par ces unités de prélèvement d'eau. Mais avec la remontée de l'eau salée, on les a fermés. Donc toute cette zone-là, celle où nous sommes actuellement, n'a pas reçu d'eau. Alors, l'eau que l'on voit ici, où est-ce qu'on la prend? Eh bien, on a réussi pendant quelques jours à prélever de l'eau au nord et on l'a ramenée ici grâce à tous nos canaux. Et vous voyez, aux pompes. Il y a peut-être 10 ou 15% de l'eau nécessaire aux cultures qui est arrivée, mais c'est mieux que rien.
Il existe pourtant des barrières contre les remontées d'eau de mer dans le Pô, mais le débit du fleuve a été tellement faible que même ces infrastructures n'ont pas fonctionné. Alors le syndicat d'irrigation propose une nouvelle solution.
Réaliser une nouvelle barrière anti-sel sur un nouveau modèle qui puisse fermer ou moduler le flux pour retenir l'eau douce. Mais ce n'est pas facile car tout le nord de l'Italie et tout le bassin du Pô sont concernés. Et l'on en estime le coût à 50 millions d'euros.
Certains réseaux de distribution d'eau potable ont aussi été mis au défi, comme ici près du lac Majeur.
Là, j'envoie l'eau dans un bassin 45 mètres plus haut.
Comme ici dans ce hameau, l'entreprise Acquanovara Vuccio a ponctuellement mobilisé des camions-citernes. À l'avenir, Daniele Barbonet, son directeur général, entend surtout faire la chasse aux fuites sur les réseaux de distribution.
Ces dernières années, nous avons mis au point un plan d'investissement de 150 millions d'euros pour trouver une solution définitive. Sur notre territoire, nous accusons 40% de perte d'eau. Cela correspond aux chiffres nationaux. Mais c'est une moyenne. Dans certaines zones, on a plus de 60% de pertes. Notre objectif, c'est de réduire de 30% ces pertes.
Acquanova Ravuccio vient d'obtenir un financement de 16 millions d'euros du plan de relance pour repérer les fuites sur le réseau de distribution et rendre sa gestion plus efficace.
Et en Allemagne, c'est le niveau du Rhin qui a fortement inquiété ces dernières semaines. De fortes pluies en Suisse, pays où le Rhin prend sa source, ont un peu amélioré la situation ces derniers jours. Mais n'empêche, les longues semaines de sécheresse ont mis un sérieux coup de frein à la navigation fluviale commerciale, secteur crucial pour le pays. À Berlin, les explications de Julien Méchaussy.
160 millions de tonnes de marchandises y circulent chaque année. Ils représentent 4% du transport commercial par voie d'eau en Allemagne. Artère économique vitale, le Rhin a lui aussi atteint des niveaux historiquement bas. De faibles niveaux d'eau qui ont même fait craindre un arrêt total du transport fluvial. Scénario du pire pour l'instant écarté grâce aux pluies de ces derniers jours. Les immenses péniches qui alimentent notamment le grand port industriel de Duisbourg ont dû réduire à plus de 70% leurs charges habituelles. Si la tension est quelque peu retombée, le manque d'eau a eu et aura pour effet d'aggraver également encore plus la crise énergétique. Face aux menaces russes et à la baisse des livraisons de gaz, l'Allemagne a fait le choix contraint de relancer l'électricité produite au charbon. Problème, les grandes centrales se situent pour la plupart dans le bassin rhénan et dépendent donc du fleuve pour leur approvisionnement. Face à l'urgence, les autorités publiques enchaînent actuellement les réunions avec l'industrie pour lancer des travaux d'approfondissement du Rhin sur certains tronçons. Une amorce de solution qui a provoqué la colère des associations de défense de l'environnement. Avec la hausse de la température de l'eau, le taux d'oxygène baisse, ce qui constitue une forte menace pour de nombreuses espèces de poissons. Des travaux d'approfondissement constitueraient une nouvelle catastrophe pour la faune. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la baisse du niveau des eaux a fait ressurgir des bombes et des munitions, héritage de la Seconde Guerre mondiale. 600 kilos d'armement ont ainsi refait surface non loin de Mayence. Un nouveau danger pour le transport fluvial, mais aussi la population.
Et en France, il y a eu ces incendies de forêt très impressionnants dans le sud-ouest du pays, dans les Landes. Mais à l'autre bout de la France, dans le Grand Est, les forêts ont largement souffert aussi, avec de nombreux départs de feu cet été, mais surtout une mort lente des arbres du fait de ces sécheresses répétées. C'est une tempête silencieuse qui pourrait bien avoir raison de la ligne bleue des Vosges, dessinée par les épicéas et les sapins typiques de la région. Le reportage en Alsace d'Angélique Ferrat.
La commune de Masvaux, au sud de l'Alsace, possède 1500 hectares de forêt. Lovée au fond de la vallée de la Dolère, la forêt est pour ce village une source de revenus et une protection pour son eau potable. Mais depuis 2018, les années de sécheresse s'enchaînent et les arbres meurent ou sont malades à cause des scolytes, des insectes qui creusent des tunnels sous l'écorce et privent l'arbre de sa sève. Jean-Charles Villaume, agent de l'Office national des forêts, surveille les bois communaux.
Je vous montre juste un truc.
Ah oui, là en fait on est devant un sapin, mais qui est assez vieux parce qu'il est quand même assez haut.
Ah oui, oui. Bon, celui-là il a 100 ans. Hein. En fait, comment il va souffrir de la sécheresse, après il va couper un peu son approvisionnement en sève, les insectes arrivent, ils mangent, et puis après la cime elle meurt. Quoi. En fait, on a aussi un hêtre, donc tu vois, c'est pareil, le hêtre fait un espèce de repli sur lui-même. Il essaie de faire des feuilles dans le milieu du houppier, mais il fait crever toutes ses branches. Ça lui limite sa transpiration. C'est un mécanisme de défense, mais au bout d'un moment, c'est beaucoup trop important. Et là, juste là, il y a le tout début du dépérissement. Ouais. Là, c'est celui-là. Celui-là, c'est le tout début. Tout début du dépérissement, on voit que les branches deviennent rouges. Il a de moins en moins de vert. Quand le vert passe au jaune, c'est pas loin le rouge. Hein. Et une fois qu'il est tout rouge, c'est foutu.
L'ampleur du phénomène est telle que l'année 2021, bien pluvieuse, a été vécue comme une bénédiction. Gilbert Gulli est débardeur dans cette vallée. Il coupe aujourd'hui essentiellement du bois mort. La hausse des températures est trop rapide pour que la forêt s'adapte, dit-il.
On coupe plus de bois sec.
Voilà.
Dans toute la vallée ?
Dans toute la vallée, mais surtout les plantations d'épicéas, ceux-là, ils ont morflé. D'ici 10 ans, je pense qu'il n'y en aura plus. Ça fait mal au cœur quand on voit des régénérations, mais il y a des plantations qui ont été plantées par nos anciens et puis ils dépérissent d'un coup. Moi j'espère que peut-être qu'ils s'acclimatent un peu à avoir moins d'eau, je ne sais pas.
Jean-Charles Villaume abonde dans ce sens. L'Office national des forêts n'avait pas prévu l'ampleur du phénomène.
2019 et 2020 ont vraiment été catastrophiques. On a eu plus de 15 000 mètres cubes de sapins morts sur ces deux années respectivement. On a mis en place des petites placettes permanentes pour observer en fait l'évolution. Et sur les 12 arbres qu'on contrôle chaque année par placette, il y en a 3 des morts à chaque fois quasiment. Ça meurt tellement fort que dans certains coins, il n'y a plus rien qui peut pousser tellement il fait chaud par moment. Et ça, c'est notre grosse crainte, hein, d'avoir un peu une accentuation de la désertification, de pierriers, de choses comme ça qui vont amplifier le phénomène.
Si la génétique des arbres évolue avec le climat et les nouvelles pousses sont plus résistantes que leurs parents, ça ne suffira pas à sauver la forêt. La commune de Masvaux cherche donc des solutions. Elle a par exemple replanté en altitude des arbres habituellement plantés dans la vallée. Et enfin, elle cherche de nouvelles essences qui pourraient s'acclimater. Il y a 2 ans, l'ONF a planté sur 2 hectares des cyprès d'Arizona. On retrouve Jean-Charles Guillaume.
Et là, on va aller voir les cyprès d'Arizona qu'on a plantés il y a 2 ans. Essence pas si exotique que ça, puisque les graines, elles ont été récupérées dans une forêt domaniale du Gard.
Ah,
forêt
bon.
Forêt domaniale d'Aubonne.
Pourquoi ? D'accord. Voilà. Des îlots d'avenir, ça, c'est exactement marqué, pour dessiner les forêts de demain.
Tout à fait, c'est ça. C'est dans l'hypothèse où le climat serait très très chaud. Si cette plantation vient bien, s'en servir comme verger à graines dans 80 ans et permettre peut-être l'ensemencement de la forêt vosgienne avec des cyprès d'Arizona. Parce que c'est une essence qui a été choisie, elle produit du bois d'œuvre, meilleur moyen pour stocker du carbone, et puis elle est imputrescible, donc il n'y a pas besoin de traitement pour la conserver, quoi. Ça tient quand même, parce que quand tu regardes ici, il n'y a que ça qui est vert, hein, quasiment. Hein. Un peu les genêts, mais sinon, même l'herbe, elle a grillé avec la météo.
Le projet a été nommé Future Forest, un jeu de mots avec avenir, futur et point cardinal. 75 parcelles ont été plantées avec des essences nouvelles dans tout le Grand Est. On a importé des chênes méditerranéens, des cèdres du Liban ou de l'Atlas et même des séquoias. Franck Leroy, vice-président de la région Grand Est, souligne que l'étude va prendre du temps.
On ne joue pas avec la forêt. Je veux dire par là qu'on ne peut pas demain se permettre de venir planter des essences. On a été chercher dans les pays du Sud en se disant, puisque le réchauffement climatique est chez nous, on va commencer à planter des arbres qui existent sur le pourtour méditerranéen. Il y a des risques, évidemment, de colonisation au détriment des arbres qui sont les arbres historiquement présents dans le Grand Est. Et dans le Grand Est, la filière bois, c'est environ 55 000 emplois, plus de 8 000 entreprises et des besoins croissants. Toutes les études internationales montrent qu'on aura besoin en 2050 d'environ 2,5 fois plus de bois qu'on en a aujourd'hui. La difficulté de la question de la forêt, c'est qu'elle est importante sur le plan économique, elle est très importante sur le plan écologique, elle est très importante sur le plan social. Il faut combiner ces différentes dimensions pour avoir une politique aussi éclairée que possible.
Le programme a coûté 2 millions d'euros et il est financé par la région Grand Est et l'Union européenne. L'ONF estime qu'en France, 500 000 hectares de forêt publique vont devoir être modifiés ou replantés à cause du réchauffement dans les 50 prochaines années.
Parmi les gros consommateurs d'eau, il y a le secteur agricole, on l'a dit, et d'autant plus les exploitations sous serre, car l'eau s'y évapore plus rapidement. Il faut également les chauffer l'hiver et puis illuminer ces serres de manière artificielle. Mais en Émilie-Romagne, en Italie, une jeune entreprise a développé un modèle de culture de tomates sous serre à impact environnemental quasi zéro. Comment ça marche? La réponse avec notre correspondante Cécile Debarge.
Imaginez plus de 30 hectares recouverts par de très grandes serres, soit environ 40 terrains de football. À l'intérieur, on y cultive non pas au sol, mais en hauteur grâce à l'hydroponie. Cette technique de cultivation hors sol est la clé du succès de l'entreprise italienne Friel Greenhouse pour produire 365 jours par an ces tomates italiennes de la marque H2 Orto. Pour un hectare de terrain cultivé avec ce procédé, il en aurait fallu 10 avec l'agriculture traditionnelle. L'apport en eau est soigneusement régulé. En moyenne, l'entreprise utilise 70% d'eau en moins. Après arrosage, l'eau en excédent est récupérée dans le système de filtration. Elle sera réutilisée. Quant à l'eau de pluie, elle est stockée et utilisée pour l'irrigation. Et l'électricité alors? Car pour produire des tomates au mois de décembre, il faut chauffer et éclairer les serres. 100% de l'électricité utilisée provient de centrales biogaz qui valorisent les déchets organiques en énergie. Et pour chauffer les serres, l'entreprise utilise l'eau utilisée par ces mêmes centrales électriques biogaz voisines. L'eau est donc très chaude lorsqu'elle est récupérée. Enfin, aucun pesticide ou désherbant n'est utilisé. L'entreprise mise sur des insectes dits utiles qui évitent l'arrivée de parasites. Forte de son succès, l'entreprise vise les 60 hectares d'ici 2026.
Music.
Vendredi, c'est l'heure musique. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Alors en cette rentrée musicale, vous nous présentez un jeune duo qui décape.
Et pour célébrer la rentrée et son cortège de nouveautés et nouvelles têtes, je vous propose de faire la connaissance d'un tout jeune duo italo-belge, Ada Oda. C'est d'abord le projet du musicien bruxellois César Lalou, qui écrivait dans son coin ses chansons minimalistes avant de les confier à Victoria Baracato, rencontrée sur Internet pendant le confinement de 2020, et de proposer à cette fille d'immigrés siciliens de les adapter en italien. Avec trois autres musiciens, ils enregistrent leurs chansons bondissantes et binaires, puis leur font passer avec succès l'épreuve de la scène au printemps dernier. Leur premier single s'intitule « Niente da offrirle » et c'est un avant-goût du premier album d'Ada Oda à paraître fin novembre.
Non, niente da offrire. Non, niente.
C'était Ada Oda Niente sur RFI. Accent d'Europe, Nicolas Benita à la réalisation. On vous donne rendez-vous lundi ou quand vous voulez via le podcast de notre émission sur vos plateformes d'écoute ou notre site rfi.fr. Excellent week-end à tous.